Bonjour à tous et à toutes. Il est vrai que je reviens de vacances, mais il est aussi vrai que je suis revenu fatigué. Non, dans le sens où j'ai mal de dos là depuis les Antilles et ça me poursuit. Et hier, comme ça faisait un mois que je n'ai pas fait de sport et que j'ai pensé à mes amis qui courent le samedi matin très tôt, hier je suis allé courir pour essayer de remettre la machine en marche. Et je pense pas que c'est une bonne idée. Mais... en tout cas, je suis très heureux d'être là. Et vous avez les salutations de l'église de Gourbert. C'est notre lieu de vacances en Guadeloupe. Et les frères vous saluent bien. Voilà. Donc je suis tout seul parce que la famille est encore sous le charme des vacances. Et on aura le plaisir d'être tous ensemble dimanche prochain. Voilà, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre des Actes. Livre des Actes. Un passage que je pense qu'on doit connaître. En tout cas, moi, j'ai lu plusieurs fois et j'ai trouvé intéressant de pouvoir méditer dessus. C'est Actes des Apôtres, le chapitre 8, concernant l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien, donc Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire les versets 4 à 24. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir » afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous dites. Pardon, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. C'est vrai que c'est un passage que nous connaissons, hein, que nous avons certainement lu plusieurs fois. Mais j'ai trouvé intéressant de méditer dessus. D'abord, quelques mots du contexte. Au chapitre 8, on peut dire que l'Église est jeune, elle est naissante. Bien qu'elle soit naissante, elle a déjà subi sa quatrième persécution avec la mort d'Étienne. Étienne fut le premier martyr. D'ailleurs, au verset 4, il dit « Ceux qui avaient été dispersés. » Donc voilà, donc la dispersion, donc persécution. Philippe, l'évangéliste, prêche le message du Christ en Samarie. Un magicien du nom de Simon est touché par le message. Et les apôtres Pierre et Jean viennent confirmer l'ouverture de l'évangile en Samarie. Donc là, c'est le contexte. Bon, rapidement, pourquoi Pierre doit-il confirmer l'ouverture de l'évangile en Samarie ? Cela répond à une promesse du Christ dans Matthieu 16, verset 19, qui dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », etc. De quelles clés s'agit-il ? Il n'est pas question des clés de l'Église, puisque Jésus-Christ est et restera toujours le chef de l'Église. Mais, dans ces clés, il faut surtout voir les clés du royaume des cieux. La clé est un signe distinctif de pouvoir et d'autorité. Et c'est vrai que l'apôtre Pierre a eu le privilège, de la part du Christ, d'être celui qui a ouvert l'évangile à Israël. Actes chapitre 2. Pierre fut le premier aussi à ouvrir l'évangile aux païens. Actes chapitre 10, avec l'histoire de Corneille, c'est là où l'évangile est arrivé. Cet esprit a été donné. Et dans Actes 8, à Samarie. Là, c'est comme ça, on n'a pas à revenir dessus. L'apôtre Pierre a été l'instrument du Seigneur pour pouvoir ouvrir l'évangile en accordant le don du Saint-Esprit à ses peuples. Voilà, bon, ça c'est le contexte. Maintenant, on revient à notre passage. C'est vrai que lorsque nous lisons l'histoire de Simon le magicien, nous sommes brutalement surpris par le comportement de Simon. Et lorsque nous lisons ce passage, nous sommes en droit de nous poser des questions. D'abord, est-ce que Simon était-il vraiment converti ? Puisqu'il est écrit, au verset 13, « Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. » Deuxième question, est-ce que le fait d'être baptisé est une garantie pour le salut pour le chrétien ? Et troisième question qu'on peut se poser légitimement dans ce passage, peut-on perdre son salut ? Puisqu'il est dit au verset 22, c'est Pierre qui parle à Simon, réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Donc lorsqu'on lit ce passage, on a le droit de se poser des questions. Mais dans l'histoire de Simon, nous pouvons voir la grande bonté et l'immense patience du Seigneur envers les hommes. Il n'y a personne sur cette terre qui ne puisse entendre l'évangile et se tourner vers le Seigneur. Dieu nous donne toujours l'occasion d'entendre l'évangile. Qui est Simon ? Le texte nous dit que Simon était un magicien. C'est quoi un magicien ? Un magicien, c'est celui qui exerce la magie. Donc, qui exerce des choses que la Bible radicalement contre. C'est une pratique occulte totalement défendue par Dieu. L'Éternel a toujours interdit son peuple de pratiquer la magie ou de commercer avec des gens qui exercent cette activité. Et ça, on peut le lire dans le Deutéronome, chapitre 18, hein, des références, hein. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11, et aussi 2 Rois 17, verset 17, hein, là où on voit que Dieu interdit radicalement son peuple, non seulement de pratiquer ce genre de choses, mais de commercer avec des gens qui le pratiquent. C'est interdit par Dieu, voilà, c'est interdit. Le magicien est le serviteur du diable. Il pratique l'occultisme, le spiritisme, la magie, l'ésotérisme, la sorcellerie, et par toutes sortes d'artifices et de mensonges, le diable a pour objectif d'éloigner l'homme de la vérité de la Bible et de l'empêcher à tout prix d'écouter ou d'être au contact avec les messagers du Seigneur qui proclament le message de la bonne nouvelle du salut, qui proclament la foi en Jésus-Christ. Et deuxième objectif du diable, c'est de détourner l'homme de la vérité qui est en Jésus-Christ et de montrer que le diable peut tout faire. Ce qui est complètement faux, mes amis. Seul l'Éternel est tout-puissant. Et le peuple a dit Amen. Seul l'Éternel est tout-puissant. Et le peuple a dit Amen. Amen. Lui est le Seigneur du ciel et de la terre. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut faire tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Car tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Seul Jésus-Christ peut tout faire. Le diable ne peut pas tout faire. Même si il a malheureusement des serviteurs qui pratiquent des choses pas bien, mais le diable ne peut pas tout faire. Alors, la question qu'on peut se poser, où est le problème de Simon? Est-ce le fait qu'il ait été magicien? Non, c'est pas ça son problème. Parce que Dieu, dans sa grande miséricorde et dans son immense bonté, nous accueille tel que nous sommes. Rappelons-nous que Simon a entendu l'évangile. Alors, Simon, c'est un magicien. Donc, quelqu'un qui pratique la magie. Il a entendu l'évangile et il est venu à Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que nous pouvons venir à Jésus-Christ tel comme nous sommes. Dieu connaît notre passé. Dieu savait parfaitement que Simon, c'était magicien. Il le sait. Mais ce qui est beau dans le message de l'évangile, c'est que Dieu nous accueille tel comme nous sommes. Et c'est tel comme nous sommes que Dieu nous appelle à venir à lui. Dès l'instant que nous nous humilions et que nous demandons pardon pour nos fautes. D'ailleurs, dans Actes 19, verset 18, on peut lire ensemble. Actes 19, verset 18. Et là, c'est l'apôtre Paul qui prêchait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Lorsqu'on entend l'évangile, ce que Dieu attend de nous, quel que soit notre passé, c'est que nous venions à lui, que nous confessions nos fautes et que nous déclarions ce que nous avons fait. Le problème de Simon, ce n'était pas le fait qu'il a été un magicien. On le verra par la suite. Parce que Dieu l'a accueilli tel comme il était, Simon. Parce que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que quel que soit notre passé, Dieu l'efface pour qu'une vie nouvelle commence. Hein, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais quel était le vrai problème de Simon? Son gros problème, c'est d'abord Simon qu'il a trompé son monde lorsqu'il exerçait la magie. Verset 9. Il est dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Simon Il a trompé son monde lorsqu'il exerçait la magie. Il était au service du diable. Son activité de démon, qui lui donnait une valeur, une importance aux yeux des hommes, parce que sa valeur aux yeux du suivant venait du diable. Et la finalité, c'était la mort et l'enfer. Son problème, c'est qu'il a trompé son monde. Mais deuxième problème, c'est que lorsqu'il a entendu l'évangile, il a voulu aussi tromper les chrétiens. Mais comment ? D'une part, en ne quittant plus Philippe, verset 13. Hein, il est marqué. Il a entendu l'évangile. Et après, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il ne le quittait plus. Et voyait avec étonnement les miracles qui se faisaient. Il était étonné parce qu'il ne comprenait pas la puissance de Dieu. Un vrai chrétien n'est pas étonné ni surpris. Il glorifie Dieu. Amen. Lorsqu'un chrétien voit la puissance de Dieu, il glorifie le Seigneur. Il n'est pas étonné parce qu'il sait que son Dieu, le Dieu Tout-Puissant, agit. Il rend grâce à Dieu pour sa puissance qu'il manifeste dans l'annonce de l'évangile. Il se met au service de la bonne nouvelle afin d'être utile entre les mains du Seigneur. Le chrétien n'est pas surpris lorsque Dieu agit. Il n'est pas surpris parce que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu qui agit jour après jour. Deuxièmement, Simon, il a voulu acheter le service pour Dieu. Il n'a pas voulu acheter Dieu, hein, parce que j'ai réfléchi un peu sur le texte. Il n'a pas voulu acheter Dieu. Il a voulu acheter le service pour Dieu. Il est dit, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il a voulu acheter le service pour Dieu. Simon veut servir. Il a toujours servi un maître, Simon. Avant, il servait le diable. Et maintenant, il veut servir le Seigneur. Il veut servir Dieu. Mais servir à sa manière. Mais il n'a rien compris au message du salut. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il n'a rien compris parce qu'il ne s'est jamais converti. Il n'a rien compris parce qu'il n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il n'a rien compris parce que son cœur n'a jamais été transformé. Il n'a rien compris parce que sa vie n'a jamais été transformée aussi. Quelqu'un pourrait dire, Simon a agi ainsi parce qu'il était jeune converti et qu'il n'avait pas encore une grande connaissance du message du salut. Moi, je dis non. Pour quelques raisons. D'une part, Philippe l'évangéliste était un excellent évangéliste et sa prédication était claire et pertinente. Verset 10. Lorsque Philippe a prêché l'évangile, il a prêché de manière puissante. Et tous ceux qui l'ont entendu y ont cru. Mais il y a un petit détail qui m'a frappé dans l'attitude de Simon. Il est écrit, lisez-le avec moi, verset 19, « Accordez-moi aussi ce pouvoir. » Accordez-moi aussi ce pouvoir. Et c'est vrai, ce petit mot pouvoir, c'est ce petit mot qui m'a amené à réfléchir sur ce texte. Pourquoi Simon emploie-t-il le terme pouvoir ? Parce que Simon est obsédé par le pouvoir. Obsédé par la soif du pouvoir. Ce qui l'intéresse, c'est de paraître quelqu'un d'important aux yeux des hommes. Pour Simon, ce qui est important, c'est qu'il soit vu par les hommes. N'oublions pas qu'il était un serviteur du diable, admiré par les hommes. Et maintenant, il recherche le pouvoir de Dieu pour être admiré par les hommes. Et c'est ça qui m'a poussé à croire que Simon n'a jamais été touché dans son cœur par l'évangile. Son cœur n'a jamais été transformé par la puissance de l'évangile. Simon est obsédé par le pouvoir. Et malheureusement, combien d'hommes parmi nous et de femmes sont obsédés, peut-être pas par le pouvoir, mais par autre chose. Est-ce que véritablement l'évangile a percé ce cœur? Est-ce que véritablement l'évangile est capable de briser ce pouvoir? Une autre indication qui m'a poussé à croire que Simon, le magicien, n'a pas été touché, c'est le fait qu'il ait dit à l'apôtre Pierre, « Priez vous-même le Seigneur pour moi. » Lorsque Pierre lui a dit ces paroles très dures, hein. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Quelle était la réaction de Simon? Il a dit, priez vous-même pour moi. Un vrai chrétien, lorsqu'il est touché dans son âme par le Saint-Esprit, il se met à genoux et c'est lui qui prie. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas la prière des frères et des sœurs, bien sûr. Naturellement, il n'est nullement question de remettre en cause la prière si salutaire et importante de la communion fraternelle. Mais lorsque le Saint-Esprit touche le cœur d'une personne, c'est lui qui se met à genoux devant le Seigneur. C'est lui qui prie. Parce que ce n'est pas mon frère qui va sauver mon âme. Ce n'est pas la prière du frère ou de la sœur qui va me sauver mon âme. Mais c'est moi devant le Seigneur Jésus implorant sa grâce et sa miséricorde parce que son sang a coulé. C'est ça qui me sauve, mes amis. Et ce petit détail me montre que Simon était loin d'être ce chrétien que nous aurions pu croire. Il pensait qu'avec son argent, il pourrait acheter le droit de devenir un serviteur de Dieu, de devenir un personnage important aux yeux des chrétiens. Non. Lorsque l'on vient à Jésus-Christ dans l'humilité et la repentance, c'est l'humilité qui nous remplit. Nous n'avons aucun désir de pouvoir. Nous ne cherchons en aucune manière de vouloir briller ou plaire aux yeux des hommes. Parce que nous avons compris que notre valeur ne vient pas de ce que nous faisons, ne vient pas de ce que nous pouvons être, mais de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La valeur du chrétien, c'est ce que le Christ a fait pour lui. Christ nous a rachetés, a fait de nous des enfants de Dieu. C'est là notre valeur. C'est là notre vraie valeur, mes amis. Notre valeur ne vient pas de nos mérites, mais du sang de Christ versé à la croix pour soi. Nous allons chercher à plaire à Dieu, non aux hommes. Quel que soit notre passé, le message de l'évangile est capable de nous transformer et de nous donner une vie nouvelle. La puissance de l'évangile du Christ est capable de changer les cœurs les plus durs et de donner une nouvelle espérance aux hommes qui étaient dans les griffes du diable. Alors, vous me direz, oui, un magicien au service du diable, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être transformé. Je dis non, puisque dans Acte 19, c'est intéressant de voir qu'il est aussi question d'autres magiciens. Acte 19, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Dans ce passage, mes amis, il est aussi question d'autres magiciens qui, ayant entendu l'évangile, se sont convertis et ont abandonné leurs pratiques. Leur cœur n'était pas fourbe comme celui de Simon. Simon, le magicien, avait le cœur fourbe. Et Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Mais n'oublions pas la grande bonté et l'immense miséricorde du Seigneur et sa patience. Nous pouvons dire avec force, Parce que dans Acte 8, lorsque nous lisons verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé. Alors, on peut dire, mais là, on dit qu'il a cru, qu'il s'est fait baptiser, après on dit qu'il n'est pas converti. C'est vrai que ça peut nous dérouter. Mais nous pouvons dire avec force, mes amis, que celui qui vient à Jésus-Christ dans la foi et dans la repentance acquiert l'assurance éternelle de son salut. 1 Jean chapitre 5, verset 13. On va lire ensemble, mes amis. On va lire ensemble. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui vient à Jésus-Christ dans la foi et dans la repentance acquiert l'assurance éternelle de son salut et une espérance solide du retour du Christ. 1 Jean 3, verset 2, qui dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le véritable chrétien qui est venu dans la foi au Seigneur Jésus a cette assurance dans son cœur qu'un jour, il verra le Seigneur. Aussi une chose que nous pouvons aussi dire par rapport au baptême, celui qui a choisi de suivre le Seigneur humblement, jusqu'à son retour, et qu'il témoigne de son engagement par les eaux du baptême, a la certitude que le Seigneur l'accompagnera et le gardera jusqu'au bout. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et on peut dire aussi, comme David, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Parce qu'il a l'assurance que son Dieu est à ses côtés. Donc celui qui vient à Jésus-Christ, désire de le suivre humblement et qui témoigne de son engagement par les eaux du baptême, a cette assurance, a cette garantie que non seulement le Seigneur le tiendra jour après jour, mais quoi qu'il arrive, le Seigneur est à ses côtés. Pour conclure, ce que nous pourrions dire rapidement, c'est que le chrétien n'est pas celui qui en a l'apparence, mais celui qui est transformé par la parole de Dieu dans l'obéissance de la foi. On peut aussi dire que la parole de Dieu est vivante et efficace pour nous modeler à l'image du Christ. La parole de Dieu est vivante et efficace pour nous modeler à l'image du Christ. Alors que Dieu nous aide, mes amis, dans sa grâce, jour après jour, à marcher dans l'humilité, dans le service du Seigneur, jusqu'à son retour. Amen.